podcast Parents pour le plaisir, un podcast pour les parents parfois en galère qui veulent trouver la joie de la parentalité en Dieu le Père.
Bonjour, moi c'est Nicolas.
Moi c'est Rachel.
Et moi c'est Chloé. Et bienvenue à notre podcast Parents pour le plaisir. On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est le dernier épisode de notre podcast. Et je dois vous dire que ça nous fait quelque chose à nous tous. On est très contents d'avoir pu vivre ces épisodes avec vous. On veut vous remercier, vous qui nous avez écoutés tout ce temps. Et aujourd'hui, on va parler du plaisir des différents stades de développement. Dans le dernier épisode, on a vraiment mis l'accent sur l'écoute, sur l'empathie, comme des outils formidables pour nous aider à nous connecter avec nos enfants avant de les corriger dans un moment de tension. Le fondement biblique de notre conversation, si vous vous rappelez, venait de Romains chapitre 2, verset 4, où on voyait ce principe étonnant et bouleversant que c'est la bonté, la générosité et la patience de Dieu qui nous poussent à la repentance et à vivre des vrais changements de cœur.
Et le titre pour notre épisode d'aujourd'hui, c'est « Le plaisir des différents stades de développement ». Alors voici une réalité à laquelle on fait face en tant que parents, c'est que nos enfants, eh bien, ils ne naissent pas tous. Ils ne naissent pas, si, ils naissent tous, mais ils naissent pas avec toutes les connaissances et les compétences qu'il leur faut pour s'épanouir sur le plan relationnel. Par exemple, pour verbaliser leurs émotions, leurs désirs qui sont derrière ces émotions, pour maîtriser leurs émotions, pour pas qu'ils se laissent dominer par elles, pour prendre en compte les désirs et les émotions des autres aussi, pour bien gérer les différences et frustrations, pour apprendre à pardonner, à demander pardon, se réconcilier, toutes ces choses. Toutes ces connaissances et compétences sont le fruit d'un apprentissage. Et le parent, on s'en doute, il a un rôle important à jouer là-dedans.
Et voici le principe qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est que plus on est conscient de ces caractéristiques liées à différents stades de développement de nos enfants, et notamment sur le plan socio-émotionnel, mieux on va être équipé pour accompagner notre enfant dans le processus d'apprentissage qui favorise des relations en bonne santé au sein d'une famille et dans la société.
Alors le sujet, il est vaste. Hein. Et il y a du coup un vrai danger aussi qu'on se perde dans des détails qui sont intéressants, mais très spécifiques pour chaque stade, si les objectifs en fait ne sont pas clairs. Donc pour notre discussion, on va se poser deux questions qui vont nous orienter dans nos réflexions. La première, c'est quelles caractéristiques des quatre stades de la période qui précède l'adolescence dans la vie de nos enfants, quelles caractéristiques vont nous aider à bien les accompagner dans ce développement socio-émotionnel? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, ça va être de quelle manière est-ce que la sagesse biblique, elle nous aide dans ce travail pédagogique?
Super. Eh bien, j'ai envie quand même de commencer avec un élément de réponse à la deuxième question, en premier, voilà, qui vient de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6 et le verset 4. Et c'est pas un verset qu'on a souvent tendance à discuter. Je pense que je ne sais pas si j'ai jamais entendu une prédication là-dessus. Mais c'est quand même un verset qui m'interpelle personnellement parce que ce sont les pères qui sont visés. Et le texte dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit au papa, « Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Et je suis personnellement interpellé à plusieurs niveaux par ce verset. D'abord, on voit clairement que les papas ont un rôle important à jouer dans l'éducation et dans
Mmh.
l'avertissement des enfants. Et peut-être certains vont prendre ça comme acquis. Oui, bien sûr, les papas ont un rôle à jouer, mais je ne suis pas sûr que tous les papas en soient convaincus, y compris les papas chrétiens. Donc, dans ce verset, c'est clair que dans la pensée biblique, les papas ont un rôle très important à jouer. Puis ensuite, ce verset nous sensibilise à un vrai danger. Je trouve ça intéressant que ce n'est pas les papas et les mamans qui sont visés en parallèle. C'est les papas en particulier qui sont, en fait, que Paul a en tête quand il dit au père, n'irritez pas vos enfants. Et je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit, vous deux. Moi, en tant que papa, je pense à tout un tas de situations où j'ai pu irriter mes enfants. Et donc, je reconnais à quel point c'est un verset qui me concerne. Ce qui est un peu frustrant, c'est que Paul, il ne nous dit pas précisément ce qu'il a en tête. Mais Paul, qu'est-ce que tu veux dire? Quel type de situation est-ce que toi, tu imagines? Il dit tout simplement, n'irritez pas vos enfants. Et puis, moi, naturellement, quand je commence à réfléchir à ce verset, je pense direct à des versets qui précèdent ce passage en chapitre 4, où Paul donne des instructions à la famille de Dieu dans son ensemble, à l'Église. Des instructions qui promeuvent la paix, qui favorisent l'amour au sein de la famille de Dieu. Et voilà, il inclut dans ses instructions des mots comme humilité, douceur, patience. Il dit des choses que je trouve très difficiles en tant que papa. Il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, dit-il, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ce qui est sûr, c'est que si on voit un père qui fait tout le contraire de ce que Paul vient de dire dans ses versets, dans sa relation avec ses enfants, eh ben ses enfants seront irrité. Donc là, je pense qu'on a du contenu pour méditer, pour réfléchir quand même au rôle du papa. Mais bien sûr, les mamans, vous pouvez vous sentir concernées aussi de votre côté. Je ne sais pas si vous aimeriez réagir un petit peu à ces instructions, oui, qui visent les papas, mais je crois qu'ils restent pertinents pour les parents en général.
Non, mais parce que nous, on n'hérite pas nos enfants, donc ça
Oui,
va.
effectivement.
J'allais dire la même chose, donc on va juste écouter parler.
Voilà, ok. Bon, je vais faire ce podcast, cet épisode moi-même, alors tout
Merci, Nico.
seul.
En fait, pour rebondir sur ce que tu disais, Nico, c'est vrai qu'on a dans ce petit verset, quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, le côté négatif des choses à ne pas faire. Et puis ensuite, on a ce qu'il faut faire, l'éducation et les avertissements qui viennent du Seigneur. Et comme tu nous l'as lu, les avertissements qui viennent du Seigneur arrivent juste après ou avant. Et en fait, ils sont là. Et les pères sont encouragés à se voir comme des transmetteurs de ces avertissements qu'ils reçoivent à leur famille. Alors que nous, on lit ce Éphésiens sans se dire, tiens, ça, je pourrais l'appliquer à ma parentalité, ça nous donne un angle très intéressant, en tout cas, je trouve.
Absolument. Puis je pense que, comme on en a déjà discuté dans les épisodes précédents, on a parlé d'obéissance, d'autorité bienveillante, etc. Et toutes ces caractéristiques avec l'humilité, la patience, la douceur. Moi, ça m'interpelle aussi énormément, que ce soit vécu dans le cadre de la vie d'église ou dans ma propre famille. On a dit en rigolant qu'on n'était pas concerné par le fait d'irriter nos enfants. Je pense que justement, on a plein d'exemples qui nous viennent en tête. Et c'est magnifique de voir cette parentalité empreinte d'humilité et de patience qu'on peut avoir avec nos enfants.
Tout à fait. Je pense qu'il y aura des exemples qu'on va pouvoir traiter en plus de profondeur de détail un peu plus tard dans l'épisode, mais c'est intéressant de noter quand même que c'est une manière concrète d'aimer nos enfants comme Dieu nous aime en Jésus-Christ, de prendre conscience, d'être sensible vis-à-vis de leur situation actuelle, la situation actuelle de mon enfant, là
Mmh.
où ils en sont actuellement dans leur développement et
Mmh.
de quoi ils sont capables aujourd'hui, ainsi que de quoi ils ne sont pas encore capables, afin de ne pas les irriter, les frustrer avec des attentes, des exigences qui sont trop élevées pour eux dans le stade où ils se situent dans cette saison de leur vie. Et c'est là, je pense, où on fait une distinction, peut-être entre juste une démarche, on pourrait presque dire purement psychologique ou socio-émotionnel, il y a un lien direct avec notre vision biblique, chrétienne et notre désir d'accompagner nos enfants dans une démarche de formation de disciples. Ça nous aide quand même de rester vraiment ancrés dans la pensée de l'apôtre Paul ici en Éphésiens et de savoir, OK, on va parler de différents stades, mais le cœur derrière tout ça, c'est vraiment d'aimer nos enfants comme Dieu nous aime en Jésus-Christ, en fait. Voilà. Donc, j'aimerais juste proposer quelques stades, si ça vous va, avec des caractéristiques et on peut discuter un peu autour de ces quatre stades de développement socio-émotionnel, en commençant par un premier stade qu'on appelle la latence, qui en général dure de la naissance jusqu'à l'âge de 18 mois. Il y a un accent très fort pendant ce stade sur l'attachement, une certaine intimité entre le parent et l'enfant. Il y a une importance de contact physique, beaucoup de contact entre même la peau du bébé et de la maman, du papa. Le temps passé en face à face, à se regarder dans les yeux, à rigoler, à faire des grimaces, à se mimer l'un l'autre. En fait, mon cœur, je ressens juste la joie de ces moments en réfléchissant à ça en tant que papa et même aujourd'hui en voyant de jeunes parents de notre église vivre ces moments avec leurs petits-enfants. C'est vraiment des moments extraordinaires, mais aussi hyper importants dans le développement de nos enfants. La valeur du chant, par exemple, de la musique. Apparemment, les enfants commencent à prendre conscience. Bon, conscience, je ne sais pas, mais en tout cas, ils entendent dès le ventre de la mère de la musique, ses voix, et donc il y a une forme d'attachement qui commence même avant la naissance, quoi. Mais c'est aussi, ce qui est aussi intéressant, et c'est là où je pense que ce serait cool de discuter un peu entre nous, c'est ça peut être aussi un beau temps d'entraînement pour le couple, cette période de latence, avec l'objectif de cultiver un climat de paix à la maison. Et comme nous trois, on se souvient bien, cette période n'est pas la période la plus facile entre un homme et une femme, en fait, un couple marié. On dort mal, surtout avec un premier enfant, on est dans l'apprentissage, la découverte de tout. On est des novices tous les deux, on fait des erreurs. C'est pas rare que l'un ou l'autre peut se sentir que c'est moi qui fais tout le travail. Et parfois tous les deux en même temps. Et donc le fait que ce soit vraiment une période pour apprendre à bien gérer les moments de tension, à veiller sur les tons de voix, apprendre à mettre des mots sur nos propres émotions et sur nos propres désirs, nos préférences, parler de manière saine autour des points de frustration, intégrer un vocabulaire de validation en lien avec l'écoute active, pratiquer le pardon, la restitution, la réconciliation. C'est vraiment une belle période d'apprendre à vivre ces choses dans un contexte de stress, avec peu de sommeil. Et
Ouais,
l'idée,
c'est
c'est
ça.
que si on fait bien notre travail là, ça va porter du bon fruit. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça.
Ben, en fait, quand tu nous as dit que selon toi, cette période de 0-18 mois, c'était un beau temps d'entraînement pour le couple pour cultiver la paix à la maison, en fait, on a ri avec Rachel parce que je pense que le témoignage de la plupart des parents, c'est que quelque part, c'est presque la période où on met entre parenthèses le couple pour se concentrer sur son bébé et puis sur sa propre survie, en fait. Et pour mon mari et moi, c'était vraiment une des pires périodes de notre mariage, cette période de 0 à 18 mois, en particulier avec notre deuxième fils qui n'a jamais dormi la nuit avant ses 4 ans, qui se réveillait 3, 4 fois dans la nuit. Et j'ai même souvenir, et je le raconte parce que mon mari le raconte aussi dans des prédications, donc c'est notion publique, que au milieu de la nuit, je lui ai souhaité de s'étouffer sur ses ronflements. Et qu'il m'a révélé le lendemain qu'en fait, il faisait semblant de dormir depuis quelques semaines et quelques mois parce qu'il ne voulait pas se lever. Et moi, je souhaitais vraiment qu'il lui arrive du mal à cause de ça. Le lendemain, on comptait des points. Moi, j'ai dormi tant d'heures, toi, tu as dormi tant d'heures. Donc, tu me dois une heure de sieste. Je me dois une heure sans enfant et une rancœur qui se construisait vraiment au point où il nous a fallu du temps avant de considérer d'avoir un troisième enfant juste à cause de la colère accumulée de ma part en fait sur cette période. Et par la grâce de Dieu, le fait de verbaliser ces choses-là dans cette période entre le deuxième et le troisième nous a permis de nous repentir, de nous demander pardon mutuellement et d'envisager un troisième enfant avec beaucoup plus de sérénité. Et par la grâce de Dieu, on a beaucoup mieux vécu aussi la toute petite enfance du troisième qui, j'avais supplié Dieu, a fait ses nuits à 3 semaines. Ça a beaucoup aidé. Mais aussi juste d'être beaucoup plus dans la grâce l'un avec l'autre, de tu me dois pas des heures de sieste, mais je te les offre gratuitement, et de pas les réclamer l'un à l'autre, mais d'être vraiment plutôt dans la générosité l'un avec l'autre, d'avoir un plan un peu plus sérieux aussi pour les nuits, etc. Mais cette demande de pardon, cette repentance qu'il y a eu entre les deux a complètement changé comment on a vécu cette phase de petite enfance. Et du coup, a été bonne pour notre couple, quoi, vraiment.
C'est ça que je trouve chouette dans ce que tu décris, c'est que tu peux faire un constat qui n'est pas évident. Et j'apprécie votre humilité aussi de raconter ces choses-là qui ne sont pas les plus brillantes. Mais en fait, on voit qu'on peut ne pas s'arrêter à ce constat d'échec, en tout cas de constat de regret, mais de voir que la communication et le pardon portent des fruits magnifiques, en fait, sur la durée. Et c'est vrai que nous, c'était aussi une période où je me disais souvent, il faut que je vois ma famille comme une équipe, qu'on fait équipe en fait, et qu'on est en train de découvrir ensemble presque davantage à la naissance de la deuxième qu'avec le premier, certainement parce qu'on a aussi moins de temps à partir de deux enfants pour rediscuter de moments plus tendus, pour être tout simplement plus disponible. Donc c'est chouette de voir que on peut faire un constat de quelque chose qui ne va pas, mais il y a toujours, toujours la porte ouverte au progrès et aussi à la réconciliation et de ne pas vivre dans le regret, quoi.
Exact. Ce qui est quand même intéressant dans ce que vous partagez là, c'est que on s'est dit, tiens, si pendant cette première période, on profite un petit peu de ce contexte de fatigue, de faiblesse, et là, on apprend ensemble justement à mettre en pratique l'évangile. Chloé, tu as mis beaucoup d'accent sur le mot grâce, mais si on se laisse en fait instruire par la grâce, pendant cette période, on apprend à vivre la grâce déjà l'un avec l'autre quand on est frustré et quand c'est difficile. Ça pose un fondement vraiment très très beau pour le prochain stade, justement, qui est le stade de la petite enfance, de 18 mois à 3 ans. Et on a un terme en anglais, on parle de cette période comme the terrible twos. Je ne sais pas s'il y a une expression en français pour ça.
Pas vraiment, non, mais on est très conscient du phénomène, je pense.
C'est vraiment juste, ouais, les 2 ans où il y a
Là, ouais.
beaucoup d'opposition, non?
C'est ça, c'est là où on va voir de plus en plus un enfant, bon, justement, la réalité de ce qu'on appelle la nature pécheresse qui va se manifester, et ce petit enfant qui veut être justement son propre roi et qui va tester les limites et qui va apprendre le mot non. Et il y aura des moments très difficiles à gérer. Et donc, ce fondement posé déjà dans la période de la latence, en lien avec l'évangile, va nous équiper à faire face à ces réalités-là. C'est aussi un moment, c'est une période pour travailler, pour mettre l'accent sur ce qu'on appelle la verbalisation parentale des émotions. Et je trouve ça super intéressant. Et en fait, j'ai découvert, franchement, un peu cette catégorie grâce à une famille de notre église, où avec Annie, on était présents chez eux. Ils ont deux enfants en bas âge, dont un, le fils aîné, qui est vraiment dans cette période-là de petite enfance, et qui était très frustré ce soir-là, parce que sa maman avait son petit frère dans les bras pour lui donner à manger, etc. Et lui, il voulait à tout prix être avec maman, quoi. Et on a pu voir juste la douceur du papa qui a pris son fils, qui avait peut-être un peu plus que 2 ans, dans ses bras. Donc lui, il était incapable de mettre des mots sur ses émotions, mais ça se voyait dans son corps, son visage. Et là, on a écouté ce papa juste mettre des mots en posant des questions Est-ce que tu aimerais être dans les mamans, les bras de maman maintenant? Oui, etc. Et donc, c'était fascinant de voir que alors qu'il ne pouvait pas, lui, le petit, le papa était un modèle et était dans l'apprentissage d'un vocabulaire pour exprimer sa réalité intérieure. Et alors que ça va prendre du temps, je me dis, waouh, quel exemple formidable même pour moi de voir cet objectif clair de la part du papa. Et je trouve ça hyper intéressant pour cette période. Juste une dernière pensée, c'est que les parents eux-mêmes peuvent être des modèles dans la gestion de leurs propres émotions. Quand nous-mêmes, on se retrouve dans une situation de frustration, plutôt que juste de réagir, ou peut-être même après une réaction, peut-être c'est trop tard et j'ai mal réagi. C'est une période, même quand l'enfant est petit, pour le parent de dire, tiens, voilà ce que papa ressentait, ou maman, pareil. On met des mots et on discute de ce que nous, on vivait intérieurement et ce qui était visible dans notre comportement. Et alors que on verra peut-être pas tout de suite les résultats, on est en train de semer une conscience des réalités intérieures qui va porter du bon fruit plus tard.
Oui, c'est tout l'apprentissage de la vie du disciple chrétien qui est de constater qu'on a des émotions qui nous viennent, qu'on a des désirs qui nous viennent, qui sont pas bons, qui sont issus de notre nature pécheresse, et que alors que ces émotions existent et qu'on ne peut pas grand-chose à leur apparition, on peut les traiter d'une manière qui plaît à Dieu. Et cet apprentissage de la petite enfance de mettre des mots sur l'émotion et puis de modeler sa réaction d'après celle des parents ou de la sagesse biblique, c'est de les mettre sur ce chemin-là dès les 2, 3, 4 ans. Tu peux être en colère qu'on ne te prête pas le jouet, mais tu ne peux pas taper le copain. Tu peux être en colère de ne pas être sur les genoux de maman, mais on peut en parler plutôt que de griffer ton petit frère. C'est tout cet apprentissage de soumettre ses émotions à notre Seigneur, Dieu.
Ouais, donc ça prépare le terrain maintenant pour un troisième stade qu'on appelle le stade préscolaire. 4 à 5 ans, bon, on appelle ça préscolaire parce que probablement c'est des anglophones qui ont identifié ce stade. En France, on est déjà à l'école à partir de 3 ans. Mais c'est un stade où, en fait, on parle d'une croissance progressive dans la capacité d'exprimer ses émotions et de communiquer ses désirs et ses préférences. Et je me souviens bien avec Wesley, on était moins conscients, franchement, de ces catégories avec nos trois grands. Mais avec notre quatrième, le dernier, on était beaucoup plus intentionnel dans cette période, en lui demandant de s'exprimer avec ses mots. Alors que peut-être il faisait des grimaces ou un comportement, voilà, il y avait une manière de communiquer sa frustration. On l'invitait à mettre des mots. Et encore une fois, s'il n'était pas capable, on cherchait nous-mêmes à proposer des possibilités. Mais là, on encourage l'enfant vraiment à grandir dans sa capacité à communiquer ce qu'il ressent intérieurement. Et un outil qui est vraiment bénéfique pour cette période, c'est ce qu'on appelle une roue des émotions. Et il y en a, en fait, il y a différents types de roues. Il y en a où il y a que quatre ou cinq émotions. C'est très, très simple. Juste les émotions de base. Et ça peut devenir de plus en plus compliqué avec de plus en plus de nuances selon l'âge. Mais c'est quand même intéressant commencer à se familiariser avec ces mots qui nous aident à décrire d'abord l'émotion. Et bien sûr, on va chercher aussi à commencer à pénétrer, OK, quel est maintenant le désir derrière cette émotion? Qu'est-ce que tu voulais? Et c'est là où on commence à ouvrir la porte à ce qui nous intéresse beaucoup en tant que parents, aux dynamiques du cœur et notamment en lien avec notre péché.
Oui, c'est
C'est
un chemin.
tellement...
Pardon, vas-y, Rachel.
J'allais juste dire que c'est tellement intéressant, je trouve, de voir qu'on ouvre le champ des possibilités pour que nos enfants apprennent à exprimer ce qui se passe intérieurement et que ça va aussi leur être utile toute leur vie. Plus tôt on arrive à transmettre ces notions et au moment où ils sont capables d'utiliser le langage, qu'ils aient un mot qui colle à ce qu'ils ressentent, c'est hyper précieux.
Oui, et ça rejoint vraiment ce qu'on essaye de développer depuis le début du podcast, qui est que pour avoir des véritables changements, il faut qu'on change le cœur et pas le comportement. Et alors qu'on pourrait choisir de reprendre notre enfant sur juste, tu ne tapes pas, c'est pas bien. L'aider à identifier que ce qu'il y avait derrière, c'est un désir d'être le seul à jouer ou de vouloir du mal à un autre enfant, ça arrive aussi. C'est très aidant dans le discipulat des jeunes enfants hein, parce que c'est tout ce qu'on n'aura jamais à faire dans notre sanctification en tant qu'adulte. C'est pourquoi est-ce qu'un péché récurrent revient toujours? Quel est le désir qu'il y a derrière qui est pécheur et comment y appliquer l'évangile? C'est extraordinaire en fait.
C'est clair que ça rejoint des grands thèmes de la parentalité biblique, c'est d'arriver à faire la distinction entre juste une modification du comportement de notre enfant et de passer vraiment un changement de cœur en lien avec les vérités puissantes de l'Évangile. Bon, un dernier stade pour terminer avec ces quatre stades avant l'adolescence, ce qu'on appelle le stade des écoliers, encore une fois, ça va dépendre un petit peu de la région du monde, mais là, normalement, on part de l'âge de 6 à 12 ans, et c'est là où il y aura une vraie mise à l'épreuve des compétences acquises dans une plus grande diversité de situations relationnelles. On sait très bien quand les enfants commencent à aller à l'école. Bon, maintenant on a tout un tas d'autres types de relations qu'on découvre. Et là, on a, en fait, c'est surtout ma femme Annie qui mettait beaucoup d'accent sur les moments de ce qu'on appelle de débriefing à la fin de la journée. Et être vraiment intentionnel, même pour aller au-delà du juste, ah, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait d'intéressant? Mais vraiment de chercher à creuser et poser des questions sur est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a rendu triste ou qui était frustrant pour toi? Est-ce que tu as vécu une surprise aujourd'hui ou quelque chose qui t'a mis en colère? Et c'est grâce à en fait, ces questions qui ouvrent la porte à une discussion un peu plus en profondeur concernant ce que l'enfant a vécu, pas juste extérieurement, mais dans son être intérieur. Ça ouvre le cœur pour pouvoir discuter en plus de profondeur de ces dynamiques, comme on dit, de cœur intérieur. Donc, on fait pareil suite à, par exemple, des colonies de vacances, un camp scout. Pendant une semaine ou 2 semaines de camp, on vit tout un tas de choses. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui est là pour débriefer ces moments, parfois des moments qui peuvent être très difficiles, même déstabilisants pour un jeune, à côté de toutes les joies, etc. Et donc, on cherche à faire exprès de creuser ces moments, poser des questions pour chercher à voir, OK, qu'est-ce que mon enfant a vécu qui pourrait ouvrir la porte à une discussion qui mène justement à l'évangile.
Je pense qu'ils vivent tellement de micro-moments dans leur journée où ils sont confrontés bon, à leur propre péché aussi. Ils sont peut-être parfois victimes de petites choses qui leur font vraiment du mal et qu'il faut apprendre à décrypter derrière et qui peut mener aussi vers les accompagner, vers accepter de pardonner la personne. Tous ces petits moments. Moi, je les vis pas mal avec. J'aime bien sur le temps de midi aussi, parce que mes enfants rentrent presque tous à midi. Et je trouve que ça leur fait du bien, parce que nous, on peut le faire hein, sur ce temps-là, mais d'avoir déjà un moment en milieu de journée où, déjà à ce moment-là, ils ont souvent des choses à raconter et à faire ressortir. Et parfois, on voit même la tension physiquement partir alors qu'il y a les mots qui sortent. Et que c'est vrai que ça passe par apprendre à poser les bonnes questions. Et aller derrière, juste le raconter les faits, surtout quand parfois certains enfants racontent presque rien de leur journée.
Ouais, mais on peut leur servir des questions intéressantes à cette époque-là, à ce moment-là de leur vie. On peut leur dire, est-ce que tu as vu une occasion où tu aurais pu être bon envers un camarade aujourd'hui? Est-ce que tu as vu une occasion où tu pouvais servir aujourd'hui? Est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre qui se sentait seul aujourd'hui? Et l'aider à développer un petit peu ses capacités d'empathie, etc., pour, par ces petites questions, ces petites discussions, développer son regard aussi pour les situations où il pourrait mettre en œuvre sa foi, s'il est déjà en Christ, hein, il y a des enfants qui le sont. Et donc de voir ces questions comme des questions de discipulat, de faire grandir son caractère chrétien, en fait, finalement. Mais aussi, des questions comme est-ce que tu t'es senti en sécurité? Est-ce qu'il y a des adultes qui t'ont rendu inconfortable? Est-ce qu'il y a des
Oui.
enfants qui t'ont rendu mal à l'aise? Ça, c'est des questions qu'il m'arrive de poser aussi après un séjour chez un copain ou un camp, etc. Pour pouvoir avoir un regard aussi sur peut-être des choses que nos enfants partageraient pas sinon.
Tout à fait. C'est bien de garder en tête un des objectifs et même un beau fruit de tout ce travail pendant ces années avant l'adolescence, c'est que on veut quand même arriver à la période de préadolescence, adolescence, avec le genre de relation, et même on a parlé dans un épisode précédent d'amitié avec notre enfant, qui fait que il se sent ou elle se sent vraiment en paix et en sécurité pour partager. Comme on a cultivé un climat de partage ouvert, c'est pas tabou de parler de nos émotions, de nos expériences. Il va commencer de plus en plus, ou elle, naturellement, à faire le débriefing et à vouloir parler avec nous de quelque chose qu'on a vécu. Juste petite anecdote, hier soir, notre fils nous a surpris. Il est arrivé à table, il avait clairement quelque chose qu'il voulait communiquer avec nous. Et donc, Annie a dit, OK, Wes, qu'est-ce que tu aimerais dire? Il était presque dans la joie et on était tellement surpris de l'entendre. C'est comme s'il a pris décision, il allait nous partager quelque chose. Il a dit, papa, maman, j'aimerais que vous me posiez des questions à la fin de la journée concernant juste ce que je fais à l'école avec les écrans. Parce que j'aimerais vous dire que on a des moyens pour jouer, faire des jeux sur les tablettes, alors que les profs ne savent pas ce qu'on fait. Et je me sens pas bien par rapport à ça. Et je voulais vous inviter à me poser la question à la fin de la journée. Wesley, qu'est-ce que tu as fait sur ta tablette aujourd'hui? Et on s'est regardé avec Annie, on était juste, waouh, ça nous a choqués. Mais je pense que là, vivre un moment comme ça avec notre fils, c'est un exemple d'un fruit qui vient d'un climat de sécurité où Wesley sait qu'il peut partager ce genre de choses sans que nous, on soit direct dans la punition, dans la ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, en fait, il y a un esprit d'accueil. Il savait qu'on allait juste réfléchir à haute voix avec lui, sans tomber direct dans l'enseignement. Non, en fait. Et donc, on a pu accueillir, réfléchir sur des stratégies à haute voix avec lui. Et c'est intéressant de garder en tête un tel objectif, d'avoir ce genre de relation avec notre enfant quand on arrive à ce stade de l'adolescence, qui est ce qu'on appelle parfois une période de renforcement et rattrapage.
Et c'est vrai que tout ça ne peut arriver que si on n'a pas ce phénomène d'irritation des enfants dans une famille. Peut-être Nico, tu peux nous aider à lier la gerbe en nous redisant en quoi respecter et comprendre ces différents stades de développement vont nous aider en tant que parents à ne pas irriter nos enfants selon le conseil biblique.
Tout à fait. Bon, je pense que ça rejoint ce qui a été dit dans l'introduction, mais c'est l'idée quand même de ne pas avoir des attentes trop élevées, des exigences qui ne correspondent pas à la situation dans laquelle se retrouve mon enfant actuellement. C'est une conscience de quoi mon enfant est capable aujourd'hui dans son développement. On va pas pouvoir tout travailler d'un seul coup. En fait, sa croissance vers la maturité va se faire étape par étape. Et si je cherche à imposer des attentes ou des exigences qui correspondent plus à l'âge d'un adolescent, ou dans certains cas même un adulte, ça serait hyper frustrant pour mon enfant qui aura vraiment du mal déjà à pouvoir être à la hauteur de mes attentes. Et parfois, ce sentiment de frustration de ne jamais pouvoir faire comme papa veut que je fasse ou être ce que papa veut, eh ben ce genre d'irritation, ça crée une distance émotionnelle où à un moment donné, il va commencer à me couper en fait, à couper le lien. Donc je pense que l'amour me pousse à être conscient de qui est mon enfant et où est-ce qu'il est, où elle est dans son développement, et je cherche à adapter mon accompagnement parental à ces réalités-là. C'est exactement ce que Dieu notre Père fait avec nous par son Esprit Saint.
Est-ce que peut-être l'un ou l'autre, on a des exemples de choses un peu compliquées selon des phases d'âge qu'on a demandé à nos enfants qui ont créé de l'irritation dans notre famille?
Ouais, j'y pensais justement parce que je me disais on parlait de d'accompagner, d'aider nos enfants à pouvoir de mieux en plus verbaliser ce qui se passe intérieurement, tout ça. Et en fait, je me dis que ça, chez nous, j'ai vu aussi la nécessité de savoir aussi écouter avec humilité quand nos enfants étaient plus grands et capables de revisiter un truc qu'on avait vécu en famille où je n'avais pas été juste et que en fait, ils avaient raison dans ce qu'ils m'expliquaient, qu'ils avaient mal vécu. Par exemple, je suis très à cheval sur le rangement, je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast. Mais en fait, il m'est arrivé de demander à mes enfants quelque chose qui était complètement infaisable, juste parce que dans le moment, je dis par exemple, bon, t'as 1 minute 30 pour ranger ta chambre. Mais en fait, ça ressemble à rien cette demande, parce qu'en fait, en 1 minute 30, moi non plus, je n'arriverai pas à ranger sa chambre. Donc, l'irritation qui naît chez mon enfant, je vois bien d'où elle vient. Elle vient d'une demande qui est inatteignable, qui n'est pas juste. De ranger sa chambre, oui, mais en reformulant cette demande sans impatience et en offrant à mon enfant un objectif atteignable, là, j'aurais pu préserver un moment où il ne serait pas irrité. Je lui ferais une demande juste.
Oui. Nous, on a eu toute une phase. J'ai un de mes fils qui est dyspraxique, donc c'est un enfant qui va avoir du mal à s'organiser dans l'espace, dans le temps, etc. Et on lui demandait de se préparer pour l'école. Et pareil, pour lui, c'était beaucoup trop vague comme demande. Et puis, comme on appliquait le fait que l'obéissance, c'était tout de suite, quand il ratait cet objectif, ben, il était puni. Et au final, on s'est rendu compte que bah, lui, ça lui causait beaucoup, beaucoup de frustration, d'irritation, parce qu'il n'était juste pas capable de remplir cette tâche. Et donc, il a fallu se rendre compte que pour lui, il allait falloir lui dire étape par étape, tu ranges ton pyjama, tu mets tes chaussures, tu prends ton cartable, tu mets ton manteau et tu sors de la maison pour aller à l'école. Que juste l'ordre va à l'école. N'allait pas. Et donc, de se rendre compte de ses capacités de développement, en plus avec une difficulté, la dyspraxie, en plus,
Ajouter, ouais.
ça nous a ouvert les yeux sur ce qu'il était capable de faire ou pas, quoi.
Oui. Ce qui est quand même intéressant, on n'aura pas le temps aujourd'hui pour malheureusement explorer toutes les pistes possibles en lien avec. Tu ouvres la porte en parlant de dyspraxie, on peut parler de dyslexie aussi, tout ce qui est hyperactivité, etc. C'est des réalités hyper présentes pour nos parents aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était que les stades qu'on a pu discuter, mais là, il y a tout un autre monde à explorer,
Bien sûr.
à voir dans l'avenir. Mais c'est le même principe, la prise en compte de qui est mon enfant et de quoi il est capable. C'est quand même un acte d'amour.
Ouais, absolument. Alors les amis, on va devoir approcher la conclusion de notre temps ensemble. Et on aimerait quand même prendre le temps. On a dit que c'était le dernier podcast, dernier épisode de cette saison. On voudrait prendre le temps de remercier Jean-Jacques Rioux, qui est le directeur des sites d'Évangile 21. Il nous a accompagnés, il nous a encouragés tout au long de cette première saison. Il était dans les coulisses, mais sans lui, il n'y avait pas de podcast sur le site. Donc merci à
Merci
Jean-Jacques. On
Jean-Jacques.
veut aussi vous remercier, vous, nos auditeurs. Et puis, notamment ceux qui ont pris le temps de nous envoyer un petit mot de feedback, vous pouvez le faire, n'hésitez pas, en commentaire, par exemple, sur YouTube. On commence déjà hein, des réflexions, un brainstorming pour de futurs épisodes dans une éventuelle saison 2 qui pourrait avoir une autre forme. Mais ce qui nous intéresserait vraiment, c'est d'avoir vos commentaires, votre feedback, vos avis, vos questions. Et pas, merci aussi de prendre le temps de le faire, c'est pour nous très très intéressant. Et donc pour cela, vous trouverez en lien sur quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour suivre ce podcast, un formulaire que vous pouvez remplir. On vous remercie de tout avis que vous pourrez nous laisser, qui nous feront progresser et réfléchir.
Alors concrètement, pour cette semaine et pour continuer les cahiers pour la réflexion sur la stratégie familiale réfléchie que vous avez démarré au début du podcast, peut-être, on vous encourage à vous familiariser avec le stade ou les stades de développement dans lesquels sont vos enfants et leurs différentes caractéristiques, notamment sur le plan socio-émotionnel. Et quelles sont les compétences qu'ils sont en train d'acquérir, qu'ils ont acquéries ou qu'ils ne sont pas encore capables d'acquérir selon les phases. Et pour ça, Nicolas a compilé une petite liste de ressources que vous pouvez utiliser qui seront en lien dans notre document ressources supplémentaires. En vous servant toujours de ce carnet familial et puis avec votre conjoint ou avec une amie ou d'autres parents, vous pouvez faire un brainstorming sur différents objectifs que vous pourriez avoir pour la saison de vie dans laquelle est votre enfant, pardon. Quelles ressources est-ce que vous aimeriez utiliser? Quelques activités, quelques initiatives, quelques discussions que vous voudriez avoir pour atteindre vos objectifs avec votre enfant?
Eh bien, Rachel, Chloé, j'aimerais vous remercier toutes les deux d'avoir vécu cette aventure à mes côtés. C'est la réalisation d'un rêve en fait qu'on discute depuis un certain temps. Et là, on arrive au bout de, bon, ce qui est peut-être une première saison à voir hein, pour la suite. Mais un grand merci à vous deux pour tout votre travail. Et pour moi, c'était un grand, grand plaisir de pouvoir discuter de ces choses et aussi de commencer à voir, comme tu as dit, Rachel, des retours de la part de parents qui suivent le podcast. Et c'est très encourageant. Et on verra ce que le Seigneur prévoit pour la suite. J'aimerais juste conclure avec une courte parole de bénédiction sur la base des instructions de Paul en Éphésiens chapitre 5, que nous soyons des imitateurs de Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Que nous vivions dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen.
Amen.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parents pour le plaisir. Notre prière, c'est que tu connaisses concrètement cette semaine le plaisir d'être toi-même enfant de Dieu.